Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment évolue la situation sécuritaire au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons trois spécialistes des questions sécuritaires comme invité, professeur Issa Ndiaye, universitaire, docteur Ali Tunkara, co-auteur du livre Le Djihad à Kemasina dans le centre du Mali, et Mahamadou Djouara, sociologue, chercheur et directeur du cabinet Gaïa. Alors je suis Mouhamadou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes. Je rappelle que vous nous suivez en live sur Facebook. Bonsoir à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Kidal est une menace pour le Niger et il faut impérativement que l'État malien y reprenne ses droits. Cette déclaration est du président nigérien dans une interview accordée à nos confrères de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Docteur Ali Tunkara, est-ce que vous pensez que Kidal est une menace pour le Niger?
Oui, je pense que le Kidal est non seulement une menace pour le Niger, mais de façon beaucoup plus large. Kidal constitue d'ailleurs une menace pour le Sahel de façon générale. Et pour ce faire, si vous regardez déjà en termes de proximité frontalière, en termes même de couverture sécuritaire, et la mobilité avec laquelle les groupes radicaux violents font également l'objet, naturellement, cette absence prolongée de l'État central à Kidal explique le pourquoi certaines fragilités sécuritaires constitue le quotidien de nos deux États, le Mali et le Niger. Je pense qu'une telle déclaration, au-delà du fait qu'elle vient d'un président quand même nigérien, du président nigérien, naturellement, quelques enseignements sont à retenir. Parmi ceux-ci, d'emblée, je crois que la déclaration, elle est une forme d'interpellation quand même à l'endroit de l'État central du Mali, face à ses responsabilités, notamment en termes de fonctions régaliennes. Et il est quand même inadmissible que de 2013 à aujourd'hui, l'État n'a jamais été présent à Kidal de façon effective, je parle d'une présence effective, pas d'une présence symbolique. On ne peut pas quand même continuer à nous faire croire que le moment où la France intervenait, les militaires maliens n'étaient pas dans un bon dispositif psychologique afin de les accompagner à Kidal. Ça, c'était l'argumentaire brandi par la France en son temps, où on parlait même de possibilités de lynchage ou même d'épuration ethnique. Ça, c'était des hypothèses émises par le Quai d'Orsay en son temps. Mais moi, je pense que ce sont des arguments du point de vue analytique qui sont quand même fallacieux. De 2013 à aujourd'hui, comment peut-on demander à un État central de ne pas être présent sur une bonne partie de son territoire? Bon, à en croire au propos de son excellence de l'ambassadeur de la France au Mali, c'est pas la France qui empêche le Mali aujourd'hui d'être à Kidal. Si cela est vrai, je pense qu'il est aussi quand même de la responsabilité de l'élite politique, notamment celle aux commandes aujourd'hui, de dire clairement aux Maliens, notamment à travers leur Parlement, qui est l'Assemblée, quels sont les raisons objectives aujourd'hui, qui expliqueraient le pourquoi aujourd'hui l'État malien peine à exercer son autorité sur Kidal. Je pense qu'une telle déclaration également, de la part du président nigérien, est aussi une forme d'interpellation vis-à-vis de la position ambiguë qu'entretient quand même la France dans le Sahel. On sait pertinemment que même entièrement nos indépendances, le Mali et le Niger, la France avait toujours manifesté ses regains d'intérêt vis-à-vis du Sahel. Pour rappel, on a connu les autorités coutumières de Kidal, certaines parties même du territoire nigérien, qui avaient signé des pétitions, effectivement.
Responsabilités. Alors, Mahamadou Djouara, est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, Kidal pose problème pour le Sahel?
Évidemment, Kidal pose problème pour le Sahel. Kidal est aujourd'hui un sanctuaire. C'est carrément un no man's land, un espace ouvert, n'est-ce pas, à tout type d'acteurs qui n'est sous contrôle de personne. C'est déjà ça le gros problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est regrettable que ça le demeure encore. Il faut se rappeler que déjà avant que la crise ne se déclenche au Mali, c'est d'abord à Kidal, dans la région de Kidal, qu'on a vu s'installer pour la première fois voit, n'est-ce pas, carrément des villes dédiées au trafic de toutes sortes et à l'organisation militaire des différents acteurs. La ville de Inhaline a servi pendant plusieurs années, avant le déclenchement de la crise, n'est-ce pas, à regrouper les trafiquants de drogue, les groupes armés et les mercenaires qui voulaient participer aux différentes opérations de guerre. Les gens venaient tranquillement à Inhaline. Ceux qui veulent rentrer en Algérie, ils déposent leurs armes, ils y vont, ensuite ils reviennent, ils reprennent leurs armes. Et la drogue se vend comme les armes se vendent, comme on le veut. Ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est bien avant. Maintenant, après, comme Ali l'a dit, la France a décidé de ne pas amener avec elle, en tout cas de ne pas laisser entrer avec elle l'armée malienne à Kidal. Ça, c'était 2013, au moment de la libération des régions du Nord. Entre-temps, il y a eu un long chemin qui s'est passé. Et dans ce chemin, plusieurs actes ont été posés, dont l'accord pour la paix et la réconciliation et celui du procès d'Alger. Dans cet accord, il est prévu que l'État malien retourne à Kidal. Et il y a un premier scénario qui devrait se faire normalement dans les 24 mois après la signature de l'accord, qui marque la période intérimaire dans la période dans laquelle on aurait dû normalement avoir les autorités intérimaires, comme on veut les appeler, qui seraient sécurisées par les patrouilles mixtes mises en place par le MOC. Malheureusement, ce MOC de Kidal n'a jamais vu le jour, effectivement. Les patrouilles mixtes qui devraient se faire n'ont jamais été opérationnalisées, ce qui fait que l'administration qui est censée être sur place n'y est pas. Maintenant, on a dit dans l'accord que les forces armées maliennes vont être redéployées progressivement après reconstitution, sauf que cette reconstitution est retardée par le fait que les différentes parties n'arrivent pas à mettre en œuvre le processus de DDR. Donc, ça ralentit. Et malheureusement, le fait que l'accord ait fixé un cadre du retour de l'État, et que l'accord ait conditionné le retour de l'armée d'abord à la reconstitution et l'évolution progressive, constituent des arguments de taille brandis et qui constituent un obstacle pour l'État malien dans son redéploiement à Kidal. Parce que une fois qu'il y a un blocage sur un point de l'agenda, notamment sur le DDR, et la reconstitution de l'armée est retardée. Si celle-ci est retardée, eh bien le redéploiement des forces armées est retardé. Donc, du coup, les gens ont le moyen d'agir sur un seul élément pour remettre en cause plusieurs autres. Et c'est là où il est temps aujourd'hui, pour des besoins sécuritaires qui dépassent l'échelle du Mali, qui couvrent l'ensemble du Sahel, voire d'autres espaces, que la communauté internationale, les parties signataires, telles que l'accord l'a prévu dans son titre 6, puissent se réunir et prendre les mesures qu'il faut en termes de modification, afin que finalement, les dispositions du titre 1 qui portent sur la reconnaissance, le respect de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et de la souveraineté de l'État sur le territoire. C'est important de le préciser. On ne s'est pas contenté de dire que le Mali est un État unitaire et que l'intégrité du territoire est garantie. Non. L'accord a précisé dans le titre 1 que la souveraineté de l'État sur le territoire malien ne fait pas l'objet de discussion. Si cela est, cette souveraineté ne peut pas s'exercer en son absence sur une partie du territoire. Donc pour la préservation de ce principe, il est nécessaire aujourd'hui que les parties se retrouvent et prennent les mesures correctives nécessaires sur l'accord, tel que l'accord l'a prévu dans le titre 6, afin que désormais l'État puisse retourner correctement avec son armée dans le cadre qu'il faut.
D'accord. Alors, professeur Issa Ndiaye, qui est au téléphone dans ces conditions, comment évolue la situation sécuritaire? Alors, petit problème technique avec le téléphone. Nous allons retrouver professeur Issa Ndiaye dans un instant. En attendant, docteur Ali Tounkara, selon vous, est-ce que la situation sécuritaire au Mali évolue positivement?
Alors, c'est important lorsqu'on parle d'une quelconque évolution de la situation dans une temporalité. J'entends par temporalité la venue du président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, quel a été l'état sécuritaire également lorsqu'il occupait la fonction présidentielle. Vouloir établir un tel bilan naturellement va nous amener à nous inscrire dans une démarche qu'on pourrait la qualifier holistique, c'est vraiment globalisante. Autrement dit, si vous prenez aujourd'hui les régions dites nord du Mali, en termes de mobilité des personnes et de leurs biens, est-ce que de 2013 à aujourd'hui, des endroits qui n'étaient pas accessibles aux communautés, notamment rurales, les sont-ils aujourd'hui? par les différents apports du quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta, je pense que la réponse elle est sans équivoque. Naturellement, sur ce plan, les communautés ont du mal toujours à se mouvoir pour des raisons liées à l'insécurité. De la même manière également, si vous prenez aujourd'hui même certains acteurs qui sont quand même inscrits dans le processus de réconciliation et de désarmement, de la réintégration, ce sont ces acteurs aujourd'hui qui constitueraient des véritables obstacles ou des réels obstacles quant à un possible retour à une paix durable. Je m'expliquerai davantage à ces sujets. Vous avez des endroits dans les régions dites nord du Mali où des groupes armés inscrits aujourd'hui dans la dynamique de réconciliation détiennent des checkpoints. Ils ont des postes de contrôle et très souvent non loin de ceux détenus par nos forces de sécurité et de défense, lesquels checkpoints font l'objet aux mêmes pratiques corruptives qu'on a connues avec l'État central. Donc, c'est pour vous dire que ceci constitue des véritables gênes pour les communautés rurales. Ce sont les informations qui viennent du terrain. On n'invente rien ici. Vous avez quand même pas mal de localités également aujourd'hui où les attaques sont quand même régulières, lesquelles attaques sont sérieusement attribuées à ces groupes qui sont inscrits dans les dynamiques de réconciliation. Donc, c'est pour vous dire que le président Ibrahim Boubacar Keïta côté bilan sécuritaire, je pense que j'ai eu la chance de parcourir une bonne partie de la région de Tombouctou en 2014, déjà avant la signature de l'accord pour la paix. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, je risquerais de parcourir les mêmes trajectoires empruntées il y a quelques années. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on analyse le bilan de façon sérieuse, je pense qu'effectivement, côté sécurité, on n'a pas bougé d'un iota en termes d'avancée. Il ne faut pas être trop aussi radical. Il faut quand même aussi rappeler la nouvelle donne qui est la région de Mopti, appelée communément le centre du pays.
Et on va revenir sur le centre tout de suite. Alors, professeur Issa Ndiaye, Mahamadou Issoufi, qui est le président du Niger, estime qu'il faut impérativement que l'État malien reprenne ses droits à Kidal. Alors, qu'est-ce qui empêche l'État malien d'être suffisamment présent aujourd'hui à Kidal, selon vous?
Je pense qu'il y a le courage politique, essentiellement. Moi, je suis étonné à chaque fois que ce soit les gens du Niger qui haussent le camp et indiquent aux Maliens ce qu'ils devraient avoir comme attitude. Et c'est très courageux et très loyal de la part du Nigérien. Je pense qu'il y a une sorte, j'allais lâcher le mot, de lâcheté au niveau des Maliens qui ne sont pas capables de défendre leurs propres intérêts. Il est évident que l'insécurité, l'extension de l'insécurité dans le nord du Mali et vers le centre, la source est à Kidal, la source est dans le nord. Et qu'il faut traiter cette source-là à Kidal. Je pense que c'est une bonne chose que les Nigériens le rappellent. Mais ça aurait été meilleur si les Maliens eux-mêmes, donc, fermement, disaient qu'il était temps de résoudre ce problème. En désarmant les groupes armés au nord, notamment à Kidal, au besoin par la force. Je pense que dans la mesure où il y a eu déjà des DDR et que les groupes rebelles ont désigné des gens pour intégrer les forces armées de sécurité, il n'y a pas de raison que ces groupes armés restent armés à Kidal et ils fassent la loi. Mais il y a des complicités qu'il faut que le Mali aussi ait le courage de dénoncer, parce que Kidal est sous protection, il faut le dire, française. Si ce n'était pas le cas, le problème aurait été résolu. Mais dans tous les cas, c'est au Mali de prendre leur courage et de dire nettement, il est temps maintenant, si l'on veut avancer dans le processus de paix, d'imposer le besoin par la force.
Mais selon vous, professeur Ndiaye, qu'est-ce qui empêche les dirigeants maliens d'avoir ce courage que vous leur demandez, d'assumer leur position et de demander le désarmement ou d'exiger même le désarmement de ces groupes armés?
L'absence de volonté politique, hein, c'est clair, hein, l'absence de volonté politique. Je suis étonné de voir que même au niveau de la classe politique, c'est rare ce qu'ils osent dire. Les choses, maintenant, tout le monde dit. La France est un pays ami, la France est un pays ami. Tous les Maliens savent ce que la France fait à Kidal, mais personne ne s'assume. Donc il y a un manque de, vraiment de volonté politique de la part de l'État malien et des Maliens d'une manière générale. Même si c'est souvent les populations qui dénoncent cet état de fait-là, Je pense qu'il est temps que l'État malien et les Maliens s'assument et disent nettement trop c'est trop, il faut arrêter cette histoire-là.
Trop c'est trop, il faut arrêter cette histoire-là. Peut-on s'attendre à cela dans les jours à venir, à l'instant-là?
Voilà. Vous savez, moi personnellement, je suis de ceux qui pendant longtemps sont restés dans la rue, marcher, contester, protester. Et ma petite expérience m'a montré que ce n'est pas nécessairement, je veux dire, ce n'est pas nécessairement par cette voie tout de suite qu'on peut espérer avoir le changement. Parce que pour que cela puisse faire un effet, il faudrait qu'il y ait un mouvement, et un vrai mouvement vaste des Maliens, qui est également, à la suite de ça, une réelle alternative. Mais quel que soit ce que les populations prendront pour dire trop c'est trop, tant que les dirigeants qui sont à la tête du pays n'ont pas des solutions concrètes en alternative, on va plutôt créer un chaos qu'apporter un changement. C'est pourquoi le défi, je suis très d'accord avec le professeur, c'est une question de courage politique qu'il faut prendre. Mais ce courage politique, il faut le prendre aussi après avoir fait un examen clair de la situation et avoir préparé une alternative concrète à la situation. Si nous demandons aujourd'hui à ce que la France quitte et que notre souveraineté soit respectée, soyons prêts à assumer cette souveraineté. Parce que, je le répète encore une fois, si nous en sommes arrivés à être dans cette situation, c'est parce que quand il aurait fallu assumer notre souveraineté, nous ne l'avons pas fait. Dans ce pays, ici à Bamako et à l'intérieur du pays, des gens ont appelé leurs enfants pour leur dire « jeter la tenue ». Ni Sara Maliko la fouille. Si tu meurs pour le Mali, tu es mort pour rien. Les gens en sont arrivés à un degré où mourir pour la patrie était devenu plus une bêtise qu'un honneur. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire que nous devons, et je suis d'accord avec lui quand il interpelle le Malien de façon générale, nous devons nous ressaisir dans notre rapport avec notre patrie et reprendre le sens du patriotisme, reprendre le sens de la responsabilité citoyenne. Je pense que c'est une question très profonde qui doit être débattue au Mali avec courage.
Les dirigeants maliens sont les premiers interlocuteurs.
Les gens fuient leur responsabilité
avec la France. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Qu'est-ce que la France a contre ces dirigeants-là qui pourraient les empêcher d'assumer leur courage comme vous le souhaitez?
Bon, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour savoir ce que les uns ont sur les autres. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation dans notre pays qui est tout simplement inacceptable, qui requiert que l'on prenne le courage à deux mains pour faire face. Maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Il y a des gens qui l'ont fait. Hein. Je pense que certains l'ont fait quand ils étaient au pouvoir, mais ils n'y ont pas duré, malheureusement. Il faut aller chercher les explications là où elles se trouvent. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est que les Maliens reprennent leur rôle de Malien et qu'ils reprennent leur sorte vis-à-vis de la patrie. On ne bâtit pas un pays sans sacrifice. Et la dignité, la liberté, la respectabilité ont un prix qu'il faut accepter de payer en tant que peuple. Quand on refuse de payer ce prix, d'autres le paieront et nous marcherons dessus à leur volonté. Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'il ne sert à rien de dire dégager, dégager pour après ne pas s'assumer. Il faut que nous soyons capables de nous assumer, que nous sachions que nous avons une responsabilité devant l'histoire vis-à-vis de ce pays et que cette responsabilité requiert que les choses se passent. Ici, on est arrivé jusqu'à traiter des criminels un premier ministre qui, sur la mission commandée de son président de la République, s'est rendu à Kidal parce que des gens seraient morts. Mais si les Maliens ne meurent pas pour le Mali, pourquoi vont-ils mourir? Si des soldats maliens ne meurent pas pour le Mali, pourquoi doivent-ils mourir? À quoi sert la tenue? À quoi sert le serment du soldat au moment de s'enrôler? Il faut que nous nous questionnions sur notre responsabilité vis-à-vis de la patrie. C'est extrêmement important parce que tout le monde se plaît à accuser tout le monde, mais très peu de gens sont capables de se faire face dans leur responsabilité dans cette histoire.
D'accord. Alors, est-ce que les Maliens sont capables de faire face à la situation, comme le demande Diouara, docteur Ali?
Je crois que la capacité, elle est sans doute, mais sauf qu'elle va avec pas mal d'outils aussi. Je pense que Diouara a mis l'accent sur un aspect qui me paraît important, qui est la notion de sacrifice et de privation. Je reconnais avec le professeur qu'effectivement, la situation kidaloise doit interpeller non seulement l'élite politique, mais dans le même temps les citoyens lambda. Mais je pense qu'à ce niveau, il est quand même important de nuancer les responsabilités. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre dans le même sac un apprentissage autrement, un colonel de la gendarmerie ou un colonel quand même de la, si vous voulez, de nos armées. Donc je pense que il est extrêmement important aujourd'hui de comprendre quelques éléments pour comprendre davantage pourquoi cette présence aussi accrue de la France dans les régions du nord du Mali, notamment les cas précis de Kidal. La France, elle est là pour plusieurs raisons. Mais parmi celles-ci, d'emblée, il faut quand même retenir que le terrorisme est une menace qui est sans frontières. La France a la ferme conviction, avec les vides institutionnels dans les régions du nord du Mali, et des groupes terroristes sont capables d'orchestrer des attentats à partir du sol malien et frapper dur la France. Donc je pense que cela expliquerait aussi le pourquoi de ces regains d'intérêt vis-à-vis du nord. Et à cela également, il faut rappeler, on ne parle pas suffisamment, cette présence, elle permet aussi à la France, et de façon générale à toute l'Union européenne, de stopper aussi toutes ces voies clandestines qui migrent vers l'Europe. Ça, c'est important. On ne voit que le volet sécuritaire, mais dans le volet sécuritaire, il y a une belle dose qui est étiquetée immigration clandestine. Et à tout cela, je pense que si une responsabilité est aujourd'hui à rappeler la justice, elle est celle de l'élite politique. Je ne vais pas comprendre aujourd'hui qu'on soit président de la République, qu'on soit du gouvernement, qu'on soit un haut cadre de nos forces de défense et de sécurité, qu'on n'ait pas un plan capable de sécuriser l'ensemble du territoire. Je ne vais pas comprendre aujourd'hui que l'état de déliquescence dans lequel se trouve l'armée malienne, que cela soit attribué aux conducteurs des taxis. Je ne peux pas comprendre avec des raccourcis qui consisteraient à dire que non, la faute est incombrée à l'imam, la faute est incombrée aux journalistes. Je pense fondamentalement aujourd'hui, le sacrifice et la privation ne sont pas l'apanage de l'élite politique malienne.
Mais justement, est-ce qu'accuser la France ne serait pas également un raccourci?
C'est plus qu'un raccourci, justement. Parce que si vous voyez que la France, elle est aujourd'hui ainsi présente sur le territoire, parce qu'effectivement, elle a trouvé un terreau favorable. Elle n'est pas partout, pour des raisons évidentes. Je pense qu'aujourd'hui, ce désintérêt qu'a l'élite politique vis-à-vis des citoyens, en tout cas, ce fossé qui existerait entre gouvernants et gouvernés dans le contexte malien, expliquer le pourquoi aujourd'hui les Maliens lambda auront du mal justement à se sacrifier. Vous ne trouvez, en tout cas, je vais parler avec nuance quand même, vous trouverez très peu de ministres aujourd'hui. Le président de la République, il n'est pas exemplaire. Et quand en termes de souffrance et de privation pour le pays, il n'est aucunement un exemple à imiter. De la même manière également, je ne vois pas aujourd'hui dans l'équipe gouvernementale un ministre qui serait prêt, il faut quand même le dire avec courage, je voudrais la rappeler, à mourir pour que le Mali soit qu'il est aujourd'hui. Je pense que quand vous avez des hommes et des femmes à la tête d'un État et qui ne sont pas prêts à consentir cet effort de privation, même à perdre leur vie, on sait quand même dans l'histoire, quand on s'intéresse même à la France d'aujourd'hui, qui a connu des guerres avec ses voisins. Mais lesquelles guerres? On connaît des hommes courageux, on connaît des femmes courageuses de la République française. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte malien, l'élite militaire, elle est désemparée. Elle est sérieusement corrompue, notamment sa hiérarchie. De la même manière également, majoritairement, les acteurs qui sont aux commandes aujourd'hui sont dans une négligence absolue. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que ces dirigeants ne partagent rien en commun avec les citoyens lambda. Des hôpitaux en passant par les écoles, en passant par des transports en commun. Comment voulez-vous que ceci, ces dirigeants, aient une empathie vis-à-vis de communautés rurales notamment? Donc c'est pour vous dire que ce fossé, il est explicable, même si on ne le légitime pas. Mais il y a quand même des raisons évidentes qui font qu'aujourd'hui, l'élite politique malienne, sa hiérarchie militaire serait aucunement prête justement à se sacrifier pour que le Mali soit réellement présent à Kidal aujourd'hui.
Et que la stabilité règne dans le pays. Alors, professeur Issa Ndiaye, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme certains habitants de la région, des régions du nord du Mali, que cette zone est oubliée par les dirigeants maliens, vu les mesures et l'évolution de la situation?
Bien sûr, c'est le moins qu'on puisse dire, et abandonner à son sort, je dis encore, faute de courage et de volonté politique. Mais je ne suis pas d'accord avec un collègue là qui disait qu'il faut, il n'y a pas d'alternative. Il y a une alternative, hein. Il y a une, les alternatives sont connues. Je pense que ce qui manque le plus aux Maliens, c'est la volonté et le courage politique. Si on sait quelle est la solution, quel est le problème et quelle est la solution. Le problème est connu, les solutions aussi sont connues. Mais seulement, il manque ce courage et cette volonté politique.
De quoi ont-ils peur au juste, professeur Ndiaye?
Bon, c'est un déficit. Un des intervenants disait justement que c'est un déficit de patriotisme. Parce que ce sont les Maliens qui ont trahi le Mali. Et c'est ça qui explique pourquoi des étrangers viennent faire la loi. C'est un pays occupé qui a perdu toute souveraineté. Le Mali n'est souverain dans aucun domaine. Et comment voulez-vous un État qui n'est nullement souverain et qu'on puisse prétendre donc défendre le pays? Ce n'est pas envisageable. Un autre parlait de la responsabilité des élites. Il y a les élites politiques, les élites militaires, mais il y a aussi les cadres d'une manière générale. Quand on voit aujourd'hui le comportement ordinaire du Malien lambda, on n'a pas le souci de tout ce qui est collectif. Les gens ne pensent plus collectif. Dans ce cas-là, il n'y a pas de pays. Donc, essayons de reconstruire cela, cette volonté de comprendre que nous participons à un même pays et que nous avons le devoir de le défendre, et il est par terre de le redresser et de le mettre sur les rails.
Alors, on parle de présence de l'État à Kidal. Quel est le rôle du gouverneur de la région?
Justement, c'est la parade, hein, parce que le gouverneur à Kidal, il n'a aucun pouvoir réel. Il n'y a pas de présence militaire à Kidal pour assurer ne serait-ce qu'à sa sécurité, y compris l'autorité de l'État. Le gouverneur de Kidal n'a aucune autorité.
Et il continue à assumer ce poste, à jouer ce rôle.
Oui, mais il continue à le faire. C'est connu de l'État malien, c'est connu de ceux qui gèrent les accords d'Alger, c'est connu de nos partenaires. Depuis Belle Lurette, tout le monde le sait, que le gouverneur de Kidal n'a aucune autorité, mais on ferme les yeux là-dessus.
À quoi sert donc, professeur Ndiaye, l'accord pour la paix et la réconciliation aujourd'hui?
Je pense que c'est un paravent qui permet donc aux groupes armés donc de se prévaloir de quelque chose, à l'État malien de se cacher derrière l'accord de l'Alger, à la communauté internationale de continuer donc à dicter sa volonté au pays. L'accord d'Alger, à mon avis, ne sert à rien. Il faudrait donc, c'est pour cela qu'il faudrait remplacer cet accord d'Alger par un dialogue constructif entre Maliens. Ce sont les Maliens qui peuvent faire la paix. Le problème du Mali, c'est d'abord l'affaire des Maliens. Tant que nous laisserons des gens venir nous dicter leur volonté, ce que nous devrons faire, nous n'en sortirons pas.
Et dans ces conditions, la situation au centre du Mali devient également de plus en plus préoccupante. Mahamadou Diouara, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces différents accords qui sont signés entre différents acteurs au centre du Mali servent à quelque chose?
Alors, merci beaucoup. Effectivement, les accords signés servent à quelque chose parce que de toute façon, c'est entre des communautés ou des acteurs sur le terrain qui sont en situation conflictuelle que ces accords ont été signés. Donc on ne peut pas dire que ça ne sert pas à quelque chose.
Mais il y a certains de des représentants de ces communautés-là, notamment de Tabital Poulakou ou de Dina Dogon, qui estiment que les vrais acteurs qui sont sur le terrain ne sont pas consultés, ne sont pas concernés par ces accords.
Vous savez, ça c'est un problème éternel au Mali. À un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. À un moment donné, il faut s'arrêter. On ne pourra jamais toucher tout le monde. C'est impossible. Et la question de la représentativité au Mali, c'est un vrai problème dans ce pays. Quel que soit ce que l'on entreprend, peu importe les gens que l'on touche, vous trouverez toujours des gens qui vont sortir pour dire que les vrais acteurs ne sont pas. Comme s'il y a une marque de vrais acteurs quelque part. Mais moi, je n'en connais pas. Et je ne pense pas que quelqu'un en connaisse. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Il y a un problème entre les communautés. Les gens meurent tous les jours. Ceux qui sont sur le terrain, qui ont été accessibles, on a discuté avec ceux-ci-là, ils ont réussi à signer un accord. Si d'autres ne sont pas d'accord, on repart les voir, on discute avec eux. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a plusieurs choses, il y a des positions d'intérêt, il y a des calculs individuels, il y a des calculs de positionnement de certaines personnes, il y a des querelles de leadership qui sont à la base, qui amènent beaucoup d'acteurs à vouloir se positionner. Est-ce que vous voyez, on a vu dans le cadre du processus de paix, et au départ, on part avec un seul groupe en face de nous, après on se retrouve avec 40 000 groupes. Hein? On a eu Gandakoui 1, 2, 3, 4, Gandaizo 1, 2, 3, 4, et maintenant là, il y a eu d'autres mouvements qui sont issus de ça. Aujourd'hui, on a MSA par-ci, on a Gatia par-là, on a MAA 1, MAA 2. Partout où l'on va, c'est la même chose. Quand on a fait les négociations à Alger, c'est la même chose. Les gens ont dit qu'ils n'ont pas été représentés, que les gens ne sont pas partis. Mais en fait, on est obligé à un moment donné d'avoir des représentants parce que 17 millions de Maliens ne peuvent pas s'asseoir dans une même salle. Ça, c'est évident. Voyez-vous.
Donc le dialogue constructif que propose le professeur Ndiaye, est-ce qu'il est possible de le tenir?
Je suis d'accord avec le professeur Ndiaye. Le dialogue constructif est un impératif. Et je suis également d'accord avec lui.
Avec
ce dialogue doit aboutir quelque part à un document refondateur qui va au-delà de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui soit un document issu de la concertation de Maliens à Maliens sur le Mali au Mali.
Mais c'est extrêmement important. Qui doivent dialoguer?
Alors, il faut discuter, il faut aller toujours d'une stratégie de la base vers le sommet. Si on part des collectivités, on part des villages aux collectivités, chaque espace socio-économique et politique du Mali à ses dirigeants légitimes. Il suffit simplement qu'on mette ces acteurs-là à l'œuvre dans un schéma national global, que chaque chef de village, à l'échelle de son village, avec les acteurs qui doivent l'accompagner, organise les dialogues à ce niveau-là, qu'au niveau des communes, les gens remontent pour pouvoir faire le dialogue. S'il le faut au niveau cercle ou bien si on doit se retrouver directement au niveau régional, qu'on se retrouve au niveau régional, mais que la désignation des représentants se fasse de la base au sommet, suite aux concertations. C'est-à-dire que quand on se réunit à une première échelle, on discute, on arrive à des conclusions. On mandate des gens qui, en notre nom, vont, non pas pour dire ce qu'eux, ils pensent, mais pour aller dire ce que la communauté a reçu comme conclusion. Le discuter et revenir pour faire une restitution. Si on procède ainsi, les gens ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été représentés. Mais si on s'assoit à Bamako et qu'on désigne des participants au bout du doigt, ou bien on prend par affinité, ou bien par acquaintance politique, on peut se retrouver avec une situation. C'est ce qui se passe très souvent. Et malheureusement, ça ne marche jamais. Mais si on permet aux populations, à la base, qui se connaissent, de discuter sur les questions fondamentales les concernant et concernant la patrie, de se faire représenter par ce qu'elle-même population estime pouvoir les représenter, pour venir présenter les conclusions qui sont issues de leur concertation et non venir défendre leur point de vue individuel, alors en ce moment on aura un dialogue national, participatif et inclusif qui pourra aboutir à quelque chose que les Maliens pourront accepter de façon générale. À un niveau, il faut des représentants, mais il faut que les représentants soient désignés par ceux qui doivent les désigner et dans les conditions qu'il faut.
Docteur Aliou Tounkara, est-ce que vous pensez que les mesures prises par les autorités maliennes pour faire face à la situation au centre du Mali sont adaptées au contexte?
Et elles sont à saluer, mais je pense que très rapidement, il faudra que Diouara intègre dans son schéma que le terroir n'est pas homogène. Aujourd'hui, la division dont fait l'objet la classe politique malienne, elle est aussi perceptible également quels sont les terroirs. Parallèlement à ça, effectivement, s'agissant des décisions prises récemment par l'élite politique, notamment celle au pouvoir, elles sont à saluer. Elles ont quand même permis d'instaurer un début d'accalmie entre les communautés vivant au centre du pays. Mais je pense qu'il faut qu'on accepte aussi des critiques qui viendraient ça et là, qui consisteraient à dire qu'effectivement, les acteurs clés ne sont pas forcément touchés par les différentes initiatives prises ça et là. Qu'est-ce que j'entends par acteurs clés? N'oublions pas quand même que toutes ces situations de conflictualité sont nées à la suite des revendications indépendantistes émaillées à des questions religieuses, notamment avec les groupes radicaux violents, avec le référent musulman. Si vous regardez toutes ces offres de dialogue, elle n'intègre pas quand même Hamadoun Koufa, qui est quand même, si vous voulez, qui est le cœur même du problème au centre du pays. C'est vrai, on sait pertinemment que les tensions au centre du Mali...
Vous pensez qu'il faut négocier avec Hamadoun Koufa?
C'est même pas une question de pensée, c'est indéniable.
Pourtant, le président nigérien estime que ce n'est pas envisageable.
Je pense que là également, c'est d'où tous les biais dans son analyse. Ce qui est important de négocier, pourquoi il est important aujourd'hui de négocier avec Hamadoun Koufa? N'oublions pas quand même qu'il y a des hommes qui se battent au sein du Mali, au nom de Sakatiba, lesquels hommes sont très inquiétants, lesquels hommes aujourd'hui font que les populations ont du mal à se mouvoir, les populations ont du mal même à cultiver. Donc je pense que si vous surfez sur la cible surface, fait le fait que de ne vous intéresser qu'aux tensions entre les groupes visibles, naturellement, on va oublier l'essentiel qui est la Katiba de Hamadoun Koufa. Je pense que s'il y a des choses à reprocher à ces différentes initiatives, ce sont plutôt les causes profondes toujours que j'aime bien le rappeler. Et dans ces différentes initiatives, vous allez vous rendre compte que l'essentiel de l'offre sécuritaire ou de l'insécurité n'a pas été questionné. J'entends par essentiel. Quelles sont les politiques publiques en matière de pâturage? Quelles sont les politiques publiques, justement, en matière d'élevage? Quelles sont les politiques publiques en matière même d'agriculture? Je pense que si...
Je reviens un peu aux négociations. Si on doit négocier avec Hamadoun Koufa aujourd'hui, qui peut mener ces négociations? Comment le faire?
Il y a des autorités coutumières aujourd'hui au centre du Mali qui sont en accointance avec certains éléments de la Katiba de Hamadoun Koufa. On a même des responsables religieux dans nos centres urbains qui seraient très proches de Hamadoun Koufa pour des raisons idéologiques. Ils sont proches uniquement sur le plan idéologique. Ceux-ci sont des véritables acteurs pour déclencher un tel processus. Je l'ai dit, je le réitère. Vous ne pouvez pas arriver à une paix durable en mettant les acteurs clés sur la touche qui sont ces différentes katibas, tant pour le centre du Mali que pour les régions du nord du Mali. Je pense que aujourd'hui, nos gouvernants, que ce soit au Mali ou au Niger, ont succombé à un piège tendu par l'Occident. On a vu les Américains en Afghanistan, en Irak, tenir les mêmes discours, les Français également, en Syrie, partout, tenir les mêmes discours. Mais au bout du compte, ces différentes puissances militaires ont quand même fini par engager le dialogue avec les groupes radicaux violents. C'est pour vous dire que aujourd'hui, nos armées sont dans un état qui ne leur permet pas de faire face à la menace terroriste par la seule voie des armes. L'outil le plus efficace, le moins coûteux aujourd'hui pour nos différents états du Sahel, c'est d'engager les dialogues avec ces acteurs radicaux violents et dans le même temps tout en tenant compte également des terroirs dans les initiatives.
D'accord. Professeur Issa Ndiaye, il y a une année, vous remettez en cause la crédibilité, la légitimité de certains leaders religieux. Est-ce que vous pensez que ces leaders religieux aujourd'hui peuvent apporter une contribution positive dans la résolution de la crise au Mali?
Je suis sceptique. Je pense qu'il y a une crise globale de la légitimité. Ce ne sont pas seulement les leaders religieux. Quand on regarde aussi les partis politiques qui prétendent donc parler au nom des populations maliennes, en réalité, quel est le score de ces partis politiques aux différentes élections? Donc même le président de la République qui est élu, quel est le nombre réel de Maliens qui ont voté pour lui? Donc il y a une crise de légitimité qui est assez généralisée. Les groupes armés qui ont pris les armes, qui parlent au nom des populations, quelle légitimité ces groupes ont? Il n'y en a pas. Et on peut citer des tas d'exemples, même la société civile.
Dans ce cas, qui peut résoudre cette situation?
Je pense que ce sont les populations à la base. Quelqu'un tout à l'heure disait, et c'est ce que j'ai dit depuis tout temps, ce sont les Maliens à la base, les communautés elles-mêmes à la base, qui peuvent résoudre les problèmes du Mali. Pas à partir de Bamako pour imposer aux femmes, mais donnons la parole aux communautés à la base, dans les villages et dans les hameaux. Ils connaissent les problèmes du pays sur le doigt. Ils en connaissent, ils ne sont pas idiots. Ils en connaissent aussi les solutions. Et maintenant, en ce qui concerne la légitimité, en leur sein, vont surgir des représentants qui vont porter leur parole là où il faut les parler. C'est en cela qu'on peut construire un vrai dialogue sur la base de la vérité et avec les véritables représentants de la volonté populaire. Ce n'est pas en parachutant du sommet donc, des représentants qui ne parlent qu'au nom de groupes d'individus et d'intérêts privés. C'est ça le problème du Mali. Donc il y a une crise de la légitimité. Les Maliens n'ont plus confiance en leur État, ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants, qu'ils soient politiques, religieux ou de la société civile, tous sont devenus des politiciens. Donc la solution ne peut venir que des populations à la base. Il est temps de les écouter.
Est-ce que vous pensez qu'il faut négocier avec les présumés djihadistes?
Il faut négocier avec tout le monde, tous ceux qui sont maliens. Tout à l'heure, un des intervenants disait, les Américains, ils font la guerre dans, en Afghanistan, mais depuis tout le temps, ils négocient avec les talibans. Ils ont fait la guerre au Vietnam. Ils négocient avec les Vietnamiens tout en continuant à faire la guerre. Et la négociation est indispensable. Tous ceux qui sont maliens doivent participer au dialogue. On peut leur dire clairement qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. On ne peut pas venir avec les armes et vouloir dicter sa volonté à tous les Maliens. Cela n'est pas acceptable. On ne peut pas aussi dire ce territoire-là m'appartient, moi j'y fais ce que je veux, ou dire on va imposer une religion. Il y a des choses qui ne seront pas faisables. Et dans le dialogue entre Maliens sur la base de la franchise et de la vérité, en se regardant les yeux dans les yeux, on dit ça c'est acceptable, ça ce n'est pas acceptable. Et sans l'intervention des étrangers. Je pense que c'est parce qu'il y a des soutiens extérieurs même à ces groupes terroristes que ces groupes terroristes prospèrent. S'il n'y avait pas de soutien extérieur, il y a longtemps que la guerre serait finie. C'est parce que justement, les interventions extérieures compliquent la situation au Mali. Les groupes armés, tout le monde est manipulé. On est manipulé. Et le sentiment général qu'ont les Maliens, ce qui est grave, les Maliens croient que même sans la France, ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Alors que la France fait partie du problème. Donc, ayons le courage de regarder les choses en face et disons-nous, seuls les Maliens ont la clé de la solution. Mais pas les Maliens des centres urbains du haut de la pyramide, mais ce sont les Maliens d'en bas qui peuvent construire des alternatives pour le pays, à condition que le jeu soit assez ouvert et franc pour leur donner vraiment la parole et que ce qu'ils disent, on en tienne compte pour bâtir le Mali nouveau.
D'accord, sortir de cette crise en 2019, est-ce possible, Mamadou Diop?
Alors, avec une très forte dose d'optimisme, c'est encore très difficile à envisager. Donc c'est pour dire que sortir de cette crise nécessite un travail minutieux, ça nécessite un travail de fond qui ne peut pas aller sans patience, méthode et rigueur. On ne peut pas se lever comme ça en un claquement de doigts et puis espérer que la solution va être trouvée. Seulement, il est urgent et très temps que chacun d'entre nous s'y mette.
Collaboration entre forces de sécurité et population citoyenne lambda, comment y parvenir?
Alors, pour arriver à une telle collaboration, je pense que l'exemplarité des militaires elle est fondamentale. Et si aujourd'hui les communautés rurales ont quelque chose à les reprocher, c'est le fait que ces militaires, effectivement, majoritairement, ne les rendent pas service. Je pense qu'il faut instaurer cette confiance. Au-delà de cette confiance également, il faut quand même rappeler aussi la responsabilité du terroir. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui à combien nos familles ont échoué dans leurs fonctions éducatives. On connaît pertinemment ces jeunes gens, effectivement, qui regagnent différents groupes radicaux violents sont quand même avant tout membres d'une famille, laquelle famille est censée léguer les valeurs fondamentales de vivre ensemble, laquelle famille est censée justement de faire en sorte que cet agent familial puisse incorporer quand même les normes sociétales. Mais je pense que dans nos différentes familles aujourd'hui, cette éducation est nettement échouée.
D'accord, merci beaucoup. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Cette émission, ce grand dialogue est une des contributions de Studio Tamani pour le retour de la paix et la réconciliation au Mali. Merci à nos invités, Professeur Issa Ndiaye, universitaire, docteur Ali Tounkara, co-auteur du livre Le Djihad à Kemasina dans le centre du Mali, et Mahamadou Diouara, sociologue, chercheur, directeur du cabinet Gaïa. À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Seydou Ndao, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Le Grand
Dialogue.